Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Que calor, tous les samedis 14h.
Samedi 8 décembre 2012, aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, nous aurons un entretien avec Emilia Castro, vice-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN, à propos de 24 heures d'action à travers le monde contre les entreprises d'exploitation de la Marche mondiale des femmes, en première partie d'émission. Puis ce sera la chronique de Nicole Moreau en compagnie de Jacques Baudet, qui est le directeur général de la Corporation de développement économique communautaire, et de Christian Bélanger, chargé de projet ABC Logement pour les ATI, en seconde partie d'émission.
Le grain de sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous, c'est Michel Lemonnette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Le Grain de sable, je vous le rappelle, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Lundi, le 10 décembre, auront lieu les 24 heures d'action à travers le monde contre les entreprises d'exploitation organisées par la Marche mondiale des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. On en parle avec Mme Emilia Castro après l'écoute d'un extrait de la chanson « Du pain et des roses ».
Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Il nous faut des roses, un souffle, une pause. Il nous faut du pain, donnons-nous la main. Nous sommes plus grandes que ce qu'il vous semble. Nous voulons la paix pour ce monde qu'on a fait. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses. Du pain et des roses pour qu'on se repose. Du pain et des roses. Trouvons des trouvailles pour que l'on travaille. Guettons les ghettos, nous sommes égaux. Blanche, blonde, brune. Gris et noir, nous parlons d'espoir. Du pain et des roses pour changer les choses. Du pain et des roses.
Ah, quelle chanson magnifique! C'est l'interprétation qu'en fait José Vachon sur la compilation Déraciné Uproot. Emilia Castro, bonjour.
Bonjour.
Le 10 décembre, dans le cadre des 24 heures d'action féministe appelées par la Marche mondiale des femmes, les groupes membres de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes organiseront des actions partout en région. À Québec, l'action débutera à midi devant le ministère de la Santé et des Services sociaux au 1075 Chemin Sainte-Foy à Québec. Nous allons y revenir, mais j'aimerais dans un premier temps peut-être nous dire quel rôle vous jouez dans l'organisation de cette ses actions. Et par la suite, on pourra parler des objectifs des 24 heures.
Je suis militante féministe et syndicale depuis fort longtemps. Et à ce titre-là, je me suis impliquée énormément dans la Marche mondiale des femmes au Québec. Et depuis 1998, je suis au niveau du comité international avec une autre femme du Guatemala. Nous représentons les Amériques. Il faut comprendre que dans la Marche mondiale des femmes, le comité international, il y a deux femmes par continent. Alors, nous travaillons pour coordonner les actions au niveau mondial. Et à chaque 2 ans, nous nous rencontrons toutes les coordinations nationales du monde dans une rencontre internationale. Dont l'action 2010, l'action 2012 qu'on va vivre le 10 décembre, elle a été décidée l'année dernière à la rencontre internationale aux Philippines.
Alors, on en parlait un peu avant d'entrer en onde. Chaque région, au fond, a des actions, met l'accent sur des aspects différents. Ici, c'est plutôt les ressources naturelles, si j'ai bien compris.
C'est ça. Il faut dire que, comme nous faisons partie des Amériques, on a une rencontre de la Marche mondiale des Amériques le mois d'août et on a abordé comment traiter cette action mondiale et nous avons décidé, toutes les coordinations nationales des Amériques, de miser sur la question des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une exploitation sauvage qui se fait un peu partout et particulièrement de la part des minières canadiennes.
Oui, effectivement, on en a parlé avec Alain Deneau, qui a sorti son ouvrage.
Tout à fait, très intéressant d'ailleurs.
Oui, et même ici au Québec, là, il y a toute la question de la Côte-Nord. Je sais que les femmes autochtones ont fait des actions pour justement attirer l'attention de la population. Mais il y a tout le développement minier finalement.
Tout à fait, dans ce sens-là, nous avons expliqué aux femmes des Amériques qui font partie des pays du Sud que nous vivions des problèmes aussi avec ces questions d'exploitation. Puis on a fait référence effectivement à toute la question du plan Nord qui ne tient pas nécessairement compte des besoins des localités et particulièrement des nations autochtones où il y a aussi une problématique particulière en ce qui concerne les femmes.
Oui, effectivement. Mais même les femmes qui vont sur la côte Nord n'ont pas nécessairement les emplois d'une part et d'autre part, même certaines sont carrément exploitées là, pour...
C'est ça, et on s'est dit aussi, c'est une question de, on parle des conditions de travail bien sûr, mais au-delà de ça, il y a toute la question de l'exploitation des ressources naturelles, est-ce qu'on protège l'environnement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, comment on va développer, et en plus, quand on les fait, à qui ça revient, les profits de ça. Et il y a des gros problèmes, non, au niveau des redevances, au niveau économique.
Oui, on en discute beaucoup ces temps-ci.
Et pour nous, c'est une préoccupation que nous portons les femmes à la Marche mondiale, mais aussi tous les groupes de femmes, c'est toute la question de la protection des services publics.
Le dernier budget a dû vous décevoir. Si
tout à fait.
J'imagine, parce qu'effectivement, il y aurait moyen d'aller chercher plus de sous du côté de l'exploitation des ressources.
Tout à fait. Et c'est ça que nous disons quand on veut privatiser, quand on s'est attaqué vraiment, malgré une promesse que le gouvernement avait fait en période d'élection concernant la taxe santé, par exemple. Et là, on n'a pas tenu compte de ces promesses. On l'a modifié. Alors, quand on sait qu'il y a de l'argent à chercher, c'est que l'argent est mal distribué.
Oui, effectivement. vous parlez d'absence de réflexion quant à l'analyse des impacts du modèle de développement économique actuel sur les femmes, l'environnement. On en parlait un peu, peut-être élaborer davantage là-dessus. Ce sont des actions, ce sont des analyses qui ne tiennent pas compte finalement de la réalité des femmes.
C'est ça, c'est pas des analyses qui tiennent compte de la réalité des femmes, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas seulement ici au niveau mondial.
Ouais.
Donc un défi que nous avons comme Marche mondiale, c'est vraiment dégager et travailler de plus en plus sur ce que nous appelons l'économie féministe, c'est-à-dire dégager des alternatives qui sont féministes, qui vont tenir compte des besoins des femmes, mais quand on dit besoin des femmes, en fait compte, c'est de toute la société.
Mais
avec un regard particulier sur la situation des femmes.
Oui. Oui, parce qu'elles sont encore elles sont encore exploitées, elles sont encore sous-payées, elles sont encore absentes de certains secteurs économiques.
Tout à fait, vous savez qu'on est encore au Québec et on gagne encore 70-73% du salaire des hommes, malgré qu'on a fait des énormes batailles partout en ce qui concerne l'équité salariale. Donc, dans une mouvance, dans le discours qu'on entend, ils nous disent, mais restez tranquille, l'égalité est atteinte au Québec. Il est faux, elle n'est pas Attends, il faut travailler. Il faut travailler fort. Mais on fait ça en lien aussi avec nos sœurs des pays du Sud. Quand il y a exploitation minière dans ces pays-là, il y a aussi l'exploitation du corps des femmes, la prostitution, les trafics sexuels. C'est très, très fort.
Oui, c'est terrible, ça. Mais en Asie aussi, c'est
en Asie, en Afrique, un peu partout.
En Europe de l'Est, un peu
tout
partout.
Tout à fait,
c'est, ça,
oui.
C'est incroyable, ça. C'est... si on parlait maintenant des actions plus particulières qui vont se dérouler ici à Québec, ça se passe, je l'ai dit, devant le ministère de l'Emploi et Solidarité sociale.
Non. Les rendez-vous, c'est devant le ministère de la Santé et Services sociaux.
Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, exactement.
Mais parce qu'on y va souvent aussi. c'est tout à fait normal.
Oui, voilà. Alors, donc, ça, c'est le rendez-vous est à midi. Il y a quand même des femmes qui vont se rencontrer avant.
Oui, ce que nous faisons, c'est qu'il y a un rendez-vous pour les femmes seulement avant, pour pouvoir préparer notre action, parce qu'on essaie qu'elle soit les plus collectives possible, cette action-là. Et là, on va se rassembler devant le ministère de la Santé et Services sociaux. Puis après, il y a une action qui est surprise, là, qu'on va dévoiler seulement à ce moment-là.
Mais il y a des choses qui se passent ailleurs aussi au Québec?
Oui, il y en a partout. Il y en a l'action nationale, se tient à Montréal, avec une action à l'heure du midi, mais suivie aussi en soirée d'une conférence avec des femmes qui vont parler un peu de la réalité qui se vit dans différents pays dans le monde, mais aussi la réalité d'ici, dont il va y avoir la participation des femmes autochtones.
C'est à quel
Québec.
Endroit, la conférence?
À Montréal, c'est au centre Saint-Pierre, sous
au
la rue Panette.
Saint-Pierre,
oui,
voilà.
C'est ça,
oui,
à 18h30.
Oui. Alors, vous attendez, j'imagine, beaucoup de monde?
À Montréal, oui, ils ont fait énormément de travail. Nous, on l'a concentré parce que le mot d'ordre, en fin de compte, c'est de tenir une action les 24 heures d'action féministe, dont c'est de midi à 1h. Oui. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire d'autres types d'activités. Je peux vous donner l'exemple. Au Chili, il faut l'action, mais c'est... on organise une journée de colloques. Alors, un peu partout dans le monde, il y a des actions, mais on fait des colloques, journées de réflexion, etc.
Adapté à la réalité
tout
locale.
Tout à fait, tout à fait, oui.
J'avais posé une question en terminant. Est-ce que il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ou...
Écoutez, je pense qu'il reste énormément de chemin à faire. Est-ce que nous avançons? Le problème, c'est qu'on avance, mais toutes nos avances sont en péril, sont fragiles. Mais je peux vous dire que j'ai une grande confiance dans la solidarité des femmes.
Ouais.
Et c'est ça, je pense que c'est notre force. Et c'est une solidarité des femmes qui est réelle, qui est concrète, ici comme ailleurs. Et je peux en témoigner. Et c'est ça, je pense que c'est notre clé de l'atteinte de nos objectifs. Là.
Ouais.
Puis cette volonté qu'on a, que c'est une volonté en tant que femme, mais c'est aussi une volonté politique d'atteindre nos objectifs d'égalité, mais une véritable égalité. Sociale aussi, économique,
oui,
politique.
C'est un peu décourageant par moment, mais il vaut mieux quand même garder un certain optimisme.
Je crois. Il faut. Et nous n'avons pas les choix. De toute façon, nous n'avons pas les choix, mais nous n'avons pas les moyens. Ouais. Puis nous avons le goût de continuer. C'est pour ça que le 10 décembre, on va solidariser tout le monde ensemble.
On parlait du plan Nord tantôt. Moi, j'en parlais dans une émission récente. C'est incroyable quand même qu'on ait fait ce développement-là sans préoccuper de la réalité des femmes. Là, c'est...
Non, la seule chose qu'on a tenu compte, c'est les profits.
Voilà.
Et c'est très difficile de faire un travail de sensibilisation et d'éducation dans ce sens-là, parce que les plans Nord prévoient des emplois, bien sûr, c'est intéressant, des retombées économiques, mais qui sont très, très fixes dans le temps, mais à aucun développement au niveau social, etc.
Exactement, et non seulement les femmes en profitent quand... on avance, mais les hommes aussi en profitent. Toute la société, les enfants, tout le monde en profite.
Chaque lutte que les femmes ont gagnée, tout le monde en profite.
Tout le monde en profite.
Non, les hommes, parce que les hommes font partie de nos vies.
Oui.
On a des enfants, on a des fils.
Exact.
Mais c'est la société au complet. Donc, quand nous avançons, le problème, c'est que nous, il faut qu'on organise nos propres luttes, parce que dans les avancements des grandes luttes, les femmes ont été toujours oubliées. Donc, il faut s'organiser nous pour qu'on ne nous oublie pas.
Mais Emilia Castro, je vous remercie beaucoup d'être passée à nos studios et on se souhaite une journée réussie lundi. Il y a d'autres actions qui vont venir par la suite, j'imagine. On aura l'occasion d'en reparler.
Avec grand plaisir et je vous remercie de l'invitation.
Merci, au revoir.
Merci.
S'il vous plaît. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs. Je vous ai morcelé mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est arrivée trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Je vous en prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte.
Une sorcière comme les autres, Jorann, chanson magnifique. On poursuit avec l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, il nous parle de la question de la qualité de, en fait, dans les universités.
Le ministre Pierre Duchesne a commencé ses consultations dans le cadre du sommet sur l'éducation supérieure. Premier sujet abordé, la qualité de l'éducation. Beau sujet s'il y en est un, qui ne voudrait pas que l'éducation transmise soit d'une grande qualité? Seulement, on peut se poser certaines questions. Est-ce qu'il y a eu une crise qui a permis de constater que l'enseignement transmis dans nos universités n'est pas de qualité? Est-ce que nos diplômés d'université seraient des incompétents, ce qui fait qu'il faut absolument resserrer les critères de qualité? Est-ce que le problème de la qualité a été abordé lors de la grève étudiante du printemps dernier? Bref, pourquoi parler de la qualité de l'éducation maintenant? En fait, c'est surtout parce que c'est une tendance internationale. Ce qu'on cherche à établir à l'échelle internationale, c'est une assurance qualité, c'est-à-dire un moyen de mesurer la qualité de l'éducation. Et cette mesure permettrait de vendre des universités à une clientèle internationale qui aurait des critères de comparaison. Cette mesure de la qualité d'éducation n'a rien de très noble, mais correspond bel et bien à une logique de marchandisation. Mais mesurer la qualité pose un problème. Comment peut-on le faire? Sur quels critères? Selon quels objectifs? En fait, cette assurance qualité a deux conséquences principales. Première conséquence, c'est d'uniformiser les pratiques universitaires. En imposant des critères internationaux d'évaluation, on force les universités à s'y conformer. Tant au niveau de l'enseignement que de la recherche, les universités vont rivaliser pour présenter un contenu et des projets semblables, forcément adaptés aux besoins du marché. Ensuite, deuxième conséquence, c'est créer une hiérarchie entre les universités, avec en tête les universités gagnantes qui attireront le plus de clientèle, qui seront alors les plus riches, les mieux financiers et qui se vendront le mieux. Tant pis pour les autres, les moins bonnes fréquentées par des perdants. Il existe actuellement quelques palmarès qui évaluent les universités. Ces palmarès se font à partir des critères mesurables suivants. Premièrement, la réputation, ce qui est un critère absurde à cause de l'effet de surenchère. Parce qu'une université est réputée, elle va continuer nécessairement à l'être. Le nombre de publications est aussi un critère de publication et de citation en provenance de l'université. Mais seules comptent les publications en anglais, tant pis pour les universités qui pratiquent une langue étrangère. Troisième critère, c'est le nombre d'étudiants étrangers, souvent attirés par des campagnes de promotion que seules les universités les plus riches peuvent se permettre. Remarquez que la qualité de l'enseignement est absente. Probablement parce qu'elle est impossible à évaluer par des critères mesurables. On peut imaginer que les critères de l'assurance qualité ne seront pas très différents et constater que tout ça va à l'encontre d'une éducation qui serait vraiment de qualité, c'est-à-dire une éducation diversifiée, égalitaire, accessible, indépendante, au service de la connaissance, et non pas une éducation clientéliste au service d'une logique de marché, une logique d'import-export dans le but de fournir à une clientèle un service rentable. Les enjeux ici sont considérables. Souhaitons donc que le sommet sur l'éducation supérieure pose les bonnes questions sur la qualité, qu'il oriente le débat vers une réflexion sincère sur nos véritables besoins et qu'il ne se serve pas du prétexte de la qualité pour rendre l'éducation conforme aux principes du néolibéralisme.
Voilà, c'était l'éditorial de Claude Vaillancourt. La qualité de l'éducation, effectivement, c'est le sujet qui a été soulevé cette semaine dans ces pré-rencontres. Effectivement, pour avoir enseigné moi-même nouveau universitaire, je pense qu'il y a comme un danger de dérive de faire en sorte qu'on veuille trop centrer l'université sur les besoins de ceux qui veulent développer l'économie. Mais l'université, c'est beaucoup plus que cela. Évidemment, il y a une partie de l'université qui sert à développer des compétences qui vont permettre à la société d'atteindre et de rencontrer ses besoins. Mais il en demeure quand même pas moins que l'université ne doit pas s'intégrer, s'imbriquer un peu comme une Pérus, là, s'imbriquer dans le système économique et pour faire en sorte finalement qu'elle ne serve que les intérêts des entreprises et du monde financier qui profite actuellement le plus du développement économique. Donc, on va faire une intermède musicale. Ensuite, il y aura la pause publicitaire et puis ce sera Nicole Moreau et ses invités.
Thank you.
C'était Cédric Vuel dans la composition la pièce musicale, pardon, Caramba, c'est tiré de la compilation des Pareillés. Alors, on s'en va dans à la pause publicitaire et évidemment, on vous invite à soutenir nos commanditaires et pourquoi pas à vous rendre sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca et en profiter pour devenir membre de CKRL. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d'Attaque Québec, attaquequebec.qc.ca et là aussi, vous pouvez devenir membre d'Attaque Québec. À tout de suite.
CKRL 89.1, Québec.
Conte de fées coquins, un spectacle unique présenté le samedi 15 décembre à 19h au Studio P, 280 rue Saint-Joseph-Est. Conte coquins et chansons grivoises, accordéons, verres de vin et dessert cochon offerts par le Moine et Chansons. Radio diffusée en direct sur les ondes de CKRL de 19h à 20h, les coquineries se poursuivront hors des ondes à 20h. Le plus corsé restera à entendre. Billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Conte de fées coquins, le 15 décembre à 19h, un spectacle présenté par les Amis Imaginaires en collaboration avec le Moine des Chansons, le Studio P et CKRL.
Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun.
Tous les matins, en semaine, de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Le Continental, l'émission du matin à CKRL. Un déjeuner informatif et socioculturel composé d'ingrédients de premier plan. Un réveil tonique et inédit, comme à la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli, c'est près de 40 variétés de pain artisanal. Un choix de salade, sandwich et pizza cuite au four à bois. Le tout pour emporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-977-7571.
Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Quécalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Quécalor, tous les samedis 14h.
AVJAM, ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. AVJAM offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AVJAM, 45 rue Saint-Joseph-Est, 88-559-0875. AVJAM.com.
Nous sommes de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. N'oubliez pas que vous pouvez, comme je vous le disais tantôt avant la plage publicitaire, vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur le site www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Nicole Moreau, bonjour.
Bonjour, Michel.
Vous avez deux invités. Je vous laisse en leur compagnie.
Alors, pour ma chronique, j'ai avec moi le directeur général de la Corporation de développement économique communautaire de Québec, M. Jacques Baudet. Bonjour, M. Baudet.
Oui, bonjour.
L'objectif de notre rencontre, c'est d'expliquer aux auditeurs c'est quoi une CEDEC et qu'est-ce que ça amène comme projet principalement. Dans la deuxième partie de ma chronique, ça va être Christian Bélanger, chargé de projet pour le programme ou pour le projet ABC Logement. Un projet important dans le cas des ATI, Approche Territoriale Intégrée. Alors, bonjour, M. Bélanger.
Bonjour.
Si je reviens à M. Baudet, c'est quoi la mission d'une CEDEC, donc CEDEC, Corporation de développement économique communautaire, sa raison d'être?
En fait, la CEDEC est un organisme de mobilisation et de concertation des milieux vivant la promotion et la mise en œuvre des projets de développement économique et social en vue de mettre en place des actions qui ont un impact positif sur la qualité de vie de nos citoyens et nos citoyennes des quartiers centraux. La CEDEC de Québec, son territoire est limité aux quartiers centraux, ça veut dire Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou, Mézeray, Les Rais, Giffard, Saint-Rodrigue, l'ancienne ville de Vanier, du Berger-les-Saules et une partie de Saint-Jean-Baptiste.
OK. Alors, si je comprends bien, vous avez une mission de revitalisation.
Absolument. En fait, on peut dire...
En mobilisant la participation citoyenne.
Entre autres.
OK. Et dans le plus concret, c'est quoi les objectifs que la CEDEC vise?
En fait, la mission, si on veut, on peut la diviser en deux. La première partie, qui est la importante, c'est on accompagne des personnes, des groupes à mettre sur pied des entreprises collectives, donc des entreprises d'économie sociale et solidaire, soit des entreprises à but non lucratif ou des entreprises coopératives. Donc ça, c'en est une des entreprises ou un ou deux exemples. On peut penser actuellement qu'on travaille avec la coop Notre-Dame de Jacques-Cartier, les gens qui habitent l'église du Clocher Penché qu'on appelle dans Saint-Roch.
Okay.
Donc on accompagne les locataires de cet édifice-là pour pouvoir pour qu'ils puissent l'acquérir et la convertir. En fait, ils sont déjà là, ils ont déjà des bureaux. Donc ça, c'est le genre de travail qu'on fait.
Si je comprends bien, vous servez de ressources, entre guillemets, de ressources professionnelles pour favoriser la mise au monde de ce type d'entreprise dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Là.
Absolument.
OK. Donc, des entreprises de type démocratique.
Absolument. Et on part du pré-démarrage. Donc, on a même eu des gens qui sont arrivés chez nous en sachant pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et là, on part de zéro avec eux, puis on va monter. On va leur expliquer c'est quoi de partir d'entreprise, c'est quoi une entreprise d'économie sociale, une entreprise d'économie libérale. Et à partir du moment qu'ils font le choix, ben on va les accompagner dans le développement. Puis, on va pouvoir les accompagner également jusqu'au financement. Et là, le financement est très large. Ça peut être, bien sûr, au Centre local de développement, au CLD de Québec. Oui. Ça peut être à la Caisse. Ça peut être au Réseau d'investissement social du Québec. Ça peut être à la Fiducie du chantier. Ça peut être à Filaction. Donc, tous les financements possibles et impossibles. Et aussi, on va les diriger, dans certains cas, vers des programmes gouvernementaux. Donc, ça, c'est la première partie de notre mission, si on veut.
Mm-hmm.
La deuxième, c'est vraiment la concertation du milieu.
Mm-hmm.
Donc, et la concertation est très large. Donc, on donne des exemples. On organise par année 3 dîners-conférences. On a eu M. Bellin qui est venu le mois passé. En février, il y a Mme Méville Deschênes, la présidente du statut de la femme, qui va être notre invitée conférencière. Et toutes les activités qu'on fait, dont les dîners, servent non pas juste à rencontrer quelqu'un qui va venir parler d'un sujet intéressant, mais également va servir de réseautage. Il y a toujours une centaine de personnes. Et la partie réseautage pour nous est aussi importante que le dîner comme tel. Donc ça, on est aussi mandataire du pôle régional d'économie sociale. Donc c'est nous qui s'occupons de la formation pour le pôle. Donc on organise 5-6 formations par année de toutes les sortes pour aider justement les administrateurs et les dirigeants d'entreprises d'économie sociale à mieux apprendre, dans le fond, et à mieux diriger les choses. Et on a aussi, toujours dans le même domaine, on a les ATI, donc on est mandataire de 2 ATI, donc l'ATI Saint-Sauveur et l'ATI Limoilou. Donc, c'est un peu, là, quand on parle de concertation, c'est ce genre de travail-là qu'on fait. On s'est aussi impliqué, on regarde dernièrement, au PPI Saint-Roch.
Quand vous parlez des ATI, c'est qui les groupes qui sont concernés par cette expérience ou...
Mais dans un premier temps, on dit que les ATI, ça veut dire l'approche territoriale intégrée.
Oui.
À Montréal, on dit des RUI. À Québec, on dit des ATI.
Oui.
Et l'ATI, dans le fond, a comme objectif de regrouper les gens d'un territoire. Donc, ça peut être un quartier, ça peut être un arrondissement, ça pourrait être une MRC, ça peut être une ville. Dans les cas de Québec, c'est des quartiers, le quartier Saint-Sauveur et les 3 quartiers de Limoilou. Donc, c'est de regrouper les gens, les forces vives d'un quartier donné, Donc, vraiment tout le monde. Mm-hmm. Les groupes communautaires, les entreprises d'économie libérale, l'économie sociale, les intervenants, bien sûr, et fort important, les résidents du quartier. Donc, de regrouper tous ces gens-là autour d'une table et ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la pauvreté dans le quartier. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre ça ensemble? Donc, c'est un peu comme si le monde d'un quartier donné se donnait un objectif commun en disant, ben qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Peu importe de quel côté je suis dans le quartier, qu'est-ce que je peux faire pour combattre la pauvreté? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, de se donner des missions communes, tout ce monde-là ensemble. Mm-hmm.
Donc, des accords sur des projets concrets.
Absolument. Okay. Oui, puis il y en a, bon, on en a plusieurs. Et si on pense à Saint-Sauveur, rapidement, bon, on a fait une étude l'an dernier avec les gens d'Emploi Québec, du Clé des quartiers historiques particulièrement, sur l'emploi dans le quartier Saint-Sauveur. Donc, on a interrogé les commerçants, et non pas juste les commerçants sur rue, mais on a également les commerçants ou les industriels du parc Saint-Malo, mm-hmm. et un certain nombre de résidents. Et cette étude-là fait en sorte que maintenant, on est à la deuxième partie et au printemps prochain, on va organiser un salon de l'emploi spécialement pour les commerçants et les industriels du quartier Saint-Sauveur pour qu'ils puissent rencontrer, dans un premier temps, les résidents du quartier. Bien sûr qu'on ne demandera pas le permis de conduire avant de rentrer, donc on espère qu'il y aura d'autres mondes d'ailleurs qui vont venir aussi. Donc, pour pouvoir combler un certain nombre de postes, parce qu'on sait qu'il y a des postes dans ces industries-là qui sont pas encore comblés. Donc, on espère et on sait que quelqu'un qui travaille à son emploi, plus que tu restes proche de ton emploi, plus que tu te sens concerné par l'emploi, plus que c'est facile d'y aller, c'est bon, t'évites la voiture, tu peux y aller à pied quand c'est 5, 10, 15 minutes de marche à pied. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on a. Et c'est un projet intéressant parce que je trouve que si ça va bien, ça veut dire que ce projet-là pourrait être exporté dans d'autres quartiers. Et je pense que tantôt, vous allez en parler, mais dans Limoilou, on a aussi l'ABC du logement, un super beau logement, un super beau projet que vous allez entendre
dont
parler
on
tantôt.
Va parler avec Christian.
Absolument.
OK. Alors, dernière petite question. La CEDEC, elle fonctionne avec un paquet de monde, mais à l'intérieur de la CEDEC, est-ce qu'il y a, sur le conseil d'administration,
oui. En fait, on a 17 personnes au conseil d'administration qui viennent de tous les milieux. Donc, on fonctionne mm-hmm. en collège électoraux. Mm-hmm. Donc, ce soit des représentants d'économie libérale, l'économie sociale, les groupes communautaires sont là, les syndicats, les groupes travail, les résidents sont là également. Donc, on a 7 collèges électoraux. Donc, il y a 17 personnes. Puis, je dois le dire, cette année, on a revisé nos règlements de régie interne et on pensait qu'on diminuerait le nombre de sièges parce qu'on a 17. C'est un gros conseil, un très gros conseil d'administration.
Oui.
Mais les administrateurs nous ont dit, ben on est présent. Effectivement, le taux de présence chez nous au conseil d'administration est de plus de 70 %.
Ouais.
Donc, ils ont dit, pourquoi qu'on baisserait le nombre de sièges? On vient au CA. On est là puis on veut y rester. Donc, on a
parce
ce conseil-là.
Que j'imagine que du fait de la représentativité du CA, ça aide pour le réseautage, ça aide pour mobiliser toutes sortes de monde.
Absolument. Puis aussi d'avoir, quand on amène un sujet au CA, mais ça nous permet aussi d'avoir des opinions venant de visions différentes. C'est sûr que quand je suis dans un syndicat, si j'amène un sujet à l'ordre du jour, mais comme syndicaliste, je le verrai pas nécessairement de la même façon que la personne qui représente les groupes communautaires puis la même personne qui représente l'économie libérale. On a aussi un certain nombre de comités qu'on a mis en place. D'ailleurs, il faut bien l'annoncer, hein, la petite annonce, on va fêter notre 20e dans 2 ans. Donc, s'il y a du monde qui aurait le goût de faire partie du comité du 20e anniversaire, il y a de la place. On voudrait souligner de belle façon nos 20 ans là, qui s'en viennent. Puis, à l'intérieur même de la CEDEC, on a une équipe de 11 personnes actuellement. 7 réguliers, si on veut, ou permanents dans le sens de la CEDEC.
Ouais.
Et les autres personnes travaillent sur des projets, mais si on regarde les ATI, c'est des projets qui durent depuis 4-5 ans chez nous. Donc, c'est plus des projets de 6 mois. Là, c'est,
c'est des vrais emplois.
C'est ça. Puis là, puis à l'hiver prochain, entre le mois de janvier et le mois de juin, on va accueillir 5 stagiaires, 2 de l'Université Laval et 3 de la France qui vont venir travailler 3-4 mois chez nous.
Bon, ben c'est bien ça. Je vous remercie infiniment, Monsieur Beaudet. Je pense que vous nous avez éclairé sur la réalité d'une CEDEC.
Ben merci beaucoup.
Oui, Nicole, c'était fort intéressant. On va faire une brève pause musicale avant votre prochain invité. On écoute Scarol de Cédric Vuil. Voilà, Nicole, je vous redonne la parole.
Alors, on va parler maintenant avec Christian Bélanger du projet L'ABC du logement. Alors, Christian, vous êtes chargé de projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif visé par le programme qui se situe, si j'ai bien compris, l'activité à laquelle j'ai participé il y a 2 semaines,
oui,
à l'intérieur de 2 ATI, Saint-Sauveur et Giffard-Montmorency, je
pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est que le projet est né en concertation des 2 ATI parce que les 2, dans leur chantier logement, sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions. Donc, ils ont décidé de faire ce projet-là, donc qui était en 2 parties, fondamentalement, qui avait pour but d'abord de faire une formation pour les intervenants puis les citoyens engagés pour leur donner les outils vraiment d'accompagner les gens en situation de pauvreté qui avaient des difficultés liées au logement, puis d'essayer de mettre tous les acteurs du logement en commun, parce que la formation, c'était pas seulement, disons, un formateur qui venait passer la journée pour donner la formation. Il y avait quelqu'un de l'OMHQ, de la FECHAC,
OMHQ.
Office municipal d'habitation. Oui. Ensuite, le regroupement des coops, des OBNLH. Il y avait aussi la situation du logement, qui était le FRAPRU qui venait faire...
FRAPRU?
Oui, qui est le... Mon Dieu, j'oublie l'acronyme. Mais qui... donc, il venait pour nous parler de la situation ici. Puis il y avait...
Les revendications pour des logements sociaux. Des logements à des prix abordables.
Et pas seulement une revendication, mais c'est vraiment les chiffres, l'état des choses. Okay. Où en est le parc récréatif, c'est-à-dire le parc immobilier, excusez-moi, pour donc qu'on ait une idée de l'orientation que la ville prend aussi dans le développement, puis l'état des choses par rapport au logement, pour situer les gens. Puis ensuite, il y avait aussi le comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui nous parlait des droits et règlements. Puis il y avait l'autre avenue qui venait nous parler de la médiation. Donc, c'est assez complet. Les gens pouvaient avoir les intervenants.
La médiation entre qui et qui?
La médiation, mon Dieu, c'est pour toute personne qui a un conflit, d'abord, eux...
Avec son propriétaire d'appartement.
Oui, c'est ça. C'est qu'eux, ils prennent vraiment dans un sens large, mais c'est sûr qu'il y avait un lien là, avec le logement pour nous. C'était essayer de trouver une alternative autre que passer par la régie pour des liens conflits, de pouvoir se parler, essayer d'avoir un dialogue puis de trouver une entente ensemble. C'est une approche qui est plus alternative, mais qui porte fruit, qui est très intéressante. Donc, c'était bien d'avoir d'entendre parler de ça, puis que les intervenants puissent en entendre parler. Donc, les intervenants venaient, puis ensuite, on a fait une boîte à outils qui est un document assez de 150 pages, donc qui regroupait toute cette information-là, puis... Justement, pour les ATI, c'est ce qui est intéressant, c'est de dire, souvent, les informations, on peut les avoir...
éparses.
C'est ça, c'est éparses, mais de réunir tout ça, puis que ça puisse être gardé dans les organismes, que toute personne puisse le consulter. Puis il y avait un lexique aussi de tous les organismes qui sont spécialisés en logement et en hébergement. Donc, tous les dossiers qu'on a traités. Ensuite, il y avait l'accessibilité universelle et des formulaires. Il y avait aussi les dossiers comparatifs.
Qu'est-ce que vous voulez dire par accessibilité universelle?
Accessibilité universelle, c'est le CAPVI qui nous a approché. Donc, le CAPVI qui parle pour les personnes à mobilité restreinte, si on peut dire.
Okay.
Donc, de penser aussi à l'importance que lorsqu'on construit un édifice ou lorsqu'on l'adapte, que ça soit adapté pour toute personne. On dit souvent c'est les gens à mobilité restreinte, mais aussi on peut parler dès qu'une personne a des enfants en bas âge, inévitablement, avec la poussette et tout.
Ou les personnes âgées avec
absolument,
les...
Absolument, absolument. Donc, on peut se retrouver dans sa vie avec des nécessités de devoir utiliser, bon, rampe d'accès, etc. Donc, ils veulent vraiment sensibiliser les gens à la nécessité de penser à ça. C'est sûr, à la base, parce que les coûts sont réduits inévitablement dès qu'au début, tu adaptes tout avec les principes d'accessibilité universelle, ben à ce moment-là, tu n'as plus à refaire les choses. Les choses sont déjà faites en les tenant en compte.
Okay, donc, il y avait cet aspect-là. C'est des normes architecturales, par exemple.
Oui, absolument.
OK.
Oui.
OK. Il y avait, donc, excusez-moi de vous couper.
Non, pas aucun problème.
Il y avait cet aspect-là. Il y en avait d'autres.
Oui, mais donc il y avait la boîte à outils. Ben si oui. Je reviens à la formation, la boîte oui. à outils, la formation pour les intervenants, puis les citoyens engagés, puis ensuite de ça, il y avait la journée du logement, dans la journée à laquelle vous avez participé.
Mm-hmm.
Non, le but c'était vraiment encore pour les gens de Limoilou puis du Fort Montmorency de mobiliser les citoyens pour qu'ils viennent, ils puissent consulter encore les organismes présents. Il y avait l'Office municipal d'habitation, la FECHAC, groupement des coops, et puis le BAI. Le BAI qui, eux, est l'organisme ici à Québec qui répond aux questions, si on peut dire, toutes questions sur le logement et de la défense des droits des locataires, principalement. Puis donc, il y avait deux salles. Une salle où on pouvait venir et poser la question à ces organismes-là et l'autre salle où, justement, on avait des ateliers théâtralisés. On essayait une formule qui se pouvait intéressante. On voulait, justement...
Qui l'était.
Ouais, ben on était très contents du résultat. Ouais. Comme vous avez pu le voir, déjà, à l'ouverture, on avait une séquence de théâtre invisible qui a très bien fonctionné.
Ah, super.
Donc, pour les auditeurs, juste pour résumer, il y avait, j'étais dans l'introduction avec tout le monde, puis il y a un propriétaire, je dis, est-ce qu'il y a des propriétaires dans la salle? Donc, il y a quelqu'un qui se lève, c'était disant être propriétaire, puis qui disait, ben moi, je comprends pas trop la crise, bon, j'ai des logements disponibles, puis une femme qui commence à dire, ah, mais moi, je serais intéressé, puis on entendait un accent, cette femme-là était audible, puis elle dit, ah oui, j'ai plusieurs enfants, mon mari travaille pas, puis donc, plus ça allait, plus le propriétaire, on le sentait un peu, essayer de trouver des raisons pour pas lui donner l'appartement, vu que inévitablement on allait parler de discrimination avec la personne du bail, mais les gens n'étaient pas conscients, donc les gens intervenaient, disaient, mais pouvez-vous parler ailleurs, mais ça n'a pas de bon sens, cette attitude-là. Donc les gens réalisaient pas du tout qu'on était, on avait commencé l'atelier, puis ça a donné une bonne onde de choc à la base.
Oui, les gens se sont sensibilisés rapidement.
Exactement.
Moi non plus, je pensais que c'était, je l'avais pas vu venir.
Ouais, c'est bon.
C'était un très bon coup.
On était très contents.
Oui.
Puis c'est ça, ensuite, dans la journée, ben c'est ça, on était très, très contents de voir que les gens qui sont venus sont restés avec nous pendant toute la journée, à travers tous les différents sujets, avec les différents ateliers. C'est sûr qu'avec le théâtre, ça rendait ça très dynamique. Les gens du bail étaient très, très efficaces, là, justement, pour aller chercher les gens avec leurs questionnements, leur donner la place. Justement, même dans le théâtre, les gens allaient prendre la place des comédiens pour intervenir, proposer leurs solutions et tout. Mmh. Donc, ça faisait une formule auxquels les gens, je pense qu'ils étaient très impliqués, puis ça l'a donné de bons résultats. On était contents de cette première édition-là.
Donc, l'ABC du logement a été mis en place parce qu'il y avait un problème d'accès au logement pour certaines catégories de personnes, mais il y avait aussi un problème de relation avec les propriétaires, un problème de prix qui monte, etc., pour dire, qui monte peut-être trop par rapport à l'augmentation des revenus des individus, et les salaires ne suivant pas ce que les propriétaires veulent ou entendent demander comme augmentation. Est-ce que je comprends bien quand je vous résume? La chose.
Mais oui, d'une certaine façon, dans les chantiers, c'est les problèmes qui sont ressortis, effectivement.
Oui.
Puis,
oui.
Dans l'ATI, ce qu'ils essaient de faire, comme on parlait de concertation, on parlait de mettre en commun c'est justement, ils ont voulu mettre en commun d'abord les intervenants en logement, qu'ils soient ensemble, que les gens puissent y accéder, que toute l'information soit regroupée. Donc, cette volonté-là de regrouper toute cette information-là et d'avoir accès directement aux gens pour en discuter. Donc, c'est un peu l'aspect novateur du projet.
Oui,
c'est-à-dire, donc, autant au niveau de la journée du logement, puis que dans la boîte à outils et la formation, c'est effectivement, c'est de traiter ces sujets-là, essayer d'avoir les réponses, essayer de couvrir à peu près l'éventail de toutes les problématiques là, qui peuvent être...
OK. Donc, outiller les gens, les sensibiliser à toutes sortes de dimensions du logement, parce que c'est majeur, le logement, pour n'importe qui.
Absolument.
Parce que sans logement, je ne sais pas comment on fait.
Ah, ben écoutez, il faut avoir un toit sous la tête, c'est sûr.
Ça, c'est la première nécessité.
Absolument, l'ABC, oui.
Oui, absolument. OK. Alors, vous avez fait appel à plusieurs organismes du milieu qui se sont tous concertés.
Absolument. Mais les gens avec qui on a fait affaire étaient très emballés par le projet déjà à la base. Ça faisait partie aussi de leur mandat, de leur mission. Ça a été facile parce que les ateliers avaient très, très bien ciblé les besoins. Peu importe à qui j'en parlais, les gens trouvaient que c'était une très bonne idée, puis ils s'y greffaient très facilement. Donc, ça a été un charme de faire ce projet-là, parce que effectivement, ça tombait pile sur soit les besoins de ceux qui le suivaient, les formations, ou qui sont venus à la journée, que ceux qui voulaient les donner et participer.
Le projet ABC du logement, est-ce que il va avoir d'autres des suivis, des actions subséquentes à l'activité d'il y a deux semaines? Est-ce que ça continue?
Oui, mais déjà, à la base, c'était prévu d'avoir une journée du logement seulement, mais les ateliers, justement, qu'on a donnés, on a vu l'effet que ça donnait, donc on a décidé aussi d'aller les promener, donc d'aller directement dans les organismes pour faire ces animations-là auprès des gens, donc se déplacer, d'aller les voir directement. Donc, il va avoir ça dans un premier temps. Puis ensuite, il travaille sur une phase 2 parce que cette formation-là, boîte à outils, journée du logement, était vraiment visée pour les deux ateliers qui étaient Limoilou puis Giforme Montmorency. Puis, ils veulent l'ouvrir justement à la ville, d'abord, dans dans un premier temps. Donc, il y a cette possibilité-là de donner cette formation au plus d'organismes possibles, au plus d'intervenants, de citoyens engagés, de pouvoir justement donner cette boîte à outils-là, puis organiser des journées du logement à différents autres endroits pour faire justement convier le citoyen à y participer. Donc, il y a cette volonté-là, oui, à cause de la participation puis des bons résultats, il y a cette volonté-là de vouloir poursuivre avec le projet, absolument.
OK. Donc, ça va se prendre bientôt comme décision.
Absolument, oui. C'est en train de se faire.
OK. On le souhaite parce que je pense que c'était drôlement intéressant et d'avoir une boîte à outils que les gens, si j'ai bien compris ce qui s'est dit il y a deux semaines, la boîte à outils va être sur Internet bientôt.
Oui, elle est déjà sur le site de la SEDEC, absolument.
OK.
Elle est disponible. Elle peut être justement téléchargée en partie.
OK.
On voulait, puis il va y avoir aussi sur le site de l'ATI de Giforme Montmorency, elle va être disponible bientôt. Justement encore là pour essayer d'en faire le profiter le plus de monde possible.
OK, c'est parfait parce que dans le fond, c'est pas essentiel d'avoir un ordi. On peut aller à la bibliothèque municipale pour consulter et il n'y a pas de problème.
Oui, tout à fait.
Hein, ça porte un papier puis un crayon, prends les notes nécessaires.
Oui. Absolument.
OK, alors l'effet du programme sur la clientèle, vous avez eu des échos après cette journée du logement, puis après les formations.
Oui, je reçois des emails, justement, c'est ça qui est le fun, parce qu'on comptait, essayer de faire un retour avec les intervenants pour voir l'utilité de la boîte, mais on n'a pas nécessairement à le faire d'une certaine façon, puisque moi je reçois des emails déjà des intervenants me disant merci, c'est intéressant, on n'a pas à chercher, on a déjà toutes les informations. On peut aller plus loin, puis donc on voit effectivement que...
Les CA des coops, les CA conseils d'administration, des coops d'habitation qui vous contactent?
C'est
monsieur, madame tout le monde.
Il y a monsieur, madame tout le monde, mais quand
on
parle.
C'est intéressant aussi, hein?
Absolument, parce que comme les citoyens qui sont préoccupés, puis qui, par la question, ils ont des gens près d'eux qui vivent des difficultés, puis ils veulent être outillés. Il y a ces gens-là, puis aussi les intervenants, donc par exemple, l'Espérance, la Chaumine, toutes ressources, là, qui travaillent avec des gens qui ont besoin d'accompagnement, puis donc qui ont un outil pour pouvoir les aider, puis bien les informer.
Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Ça a été très instructif.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces belles informations. Je faisais des signes depuis tantôt, Nicole. Le temps file, hélas, nous devons nous quitter très bientôt. Je vous rappelle rapidement une activité qui se fait chaque année. C'est Amnesty International qui organise une campagne de cartes de vœux. Ça, c'est au hall du complexe Place Jacques-Cartier devant la bibliothèque Gabriel-Roy. C'est demain de 10h à 16h. Vous pouvez vous y rendre. Et n'oubliez pas la journée mondiale de demain, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et n'oubliez pas le 10 décembre à midi, 24 heures d'action à travers le monde contre les entreprises d'exploitation. Marche mondiale des femmes, ça c'est à midi au 1075 Chemin Sainte-Foy à Québec. Alors il me reste à vous remercier d'avoir assisté à notre émission comme chaque semaine. Et merci beaucoup à Emilia Castro, vice-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches à propos de 24 heures d'action. Merci aussi à à Nicole Moreau et à ses invités, M. Jacques Baudet, qui est le directeur général de la Corporation de développement économique communautaire, et M. Christian Bélanger, chargé de projet ABC Logement pour les ATI. Merci enfin à Claude Vaillancourt pour son éditorial hebdomadaire. Alors, il me reste à vous inviter à regarder, à réécouter nos enregistrements qui sont disponibles sur notre blog, le grain de sable qc.org, ou sinon sur le site d'Attaque Québec ou sur le site CKRL, www.ckrl.qc.ca. Au revoir et à la semaine prochaine.
Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Un abonnement au Musée de la civilisation, un cadeau original à s'offrir ou à offrir. Abonnez-vous d'ici le 31 décembre et courez la chance de gagner de fabuleux prix d'une valeur de 1 000 $. Déjà abonné? Vous êtes également éligible. Le Musée de la civilisation, un lieu d'émerveillement et une programmation colossale. Du Japon au Nigeria, de la culture maori à celle du Québec, une expérience immersive dans l'histoire des jeux vidéo et des objets de collection exceptionnels. Pour connaître tous les privilèges de vous abonner au Musée de la civilisation ainsi que tous les détails du concours, rendez-vous au mcq.org. /abonnement.
Chez Contes de Fées, la magie est dans les histoires. En sortie le 15 décembre, venez vous faire ensorceler au Studio P dès 13h au 280 Saint-Joseph-Est. Après avoir été envoûté par Yolaine la Conteuse, vous partirez quelque part en Amérique avec Alain Beaulieu. Ensuite, Cassandre vous chantera l'amour et Tania, notre libraire, dira le mot de la fin avec ses livres. Gourmandise et prix de présence à la fin de l'émission. C'est gratuit. Une invitation du Café Babylone, du Studio P, de la librairie Pantoute et de CKRL.
Le showman le plus éclaté au Québec, Antoine Graton, sera bientôt de passage au Théâtre Petit Champlain. Du 10 au 14 décembre, écoutez Change de disque entre 15h30 et 17h30 et courez la chance de gagner votre copie de son plus récent album, La Défense du titre. Une paire de billets pour le spectacle du 19 décembre sera attribuée parmi les 5 gagnants quotidiens. Soyez à l'écoute de CKRL et gagnez vos billets pour Antoine Graton.
J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huile, quelques ours polaires. Ajoutez un chèque que vous signez généreusement. Mettez 1 ou 2 zéros de plus, c'est encore meilleur.
C'est la grande guignolée des médias.
Jusqu'au 24 décembre, apportez vos denrées non périssables dans les pharmacies Jean Coutu, les banques Laurentiennes, les Provigo Maxi Loblaz ou faites un don en ligne sur moissonquebec.com.
C'est la grande guignolée des médias. Donnez. Les besoins sont grands.
Le temps des fêtes est souvent synonyme de courses folles, d'achats excessifs. Mais heureusement qu'il existe le traiteur Plaisir et Arôme pour nous sauver temps et argent. Courez la chance de gagner votre buffet des fêtes en visitant notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Concours. Partagez sur votre mur et obtenez 3 chances supplémentaires. Sur réservation de votre buffet pour le temps des fêtes, dites CKRL et obtenez une surprise. 418-621-0549, plaisirearome.com.
Les jeudis 9h, ne manquez pas le...